6. Lapsus scriptae. Oui, mais j'ai beau me raisonner, me roidir, je ne peux plus rester seul chez moi parce qu'il y est. Je ne le verrai plus, je le sais. Il ne se montrera plus, c'est fini cela. Mais il y est tout de même. Dans ma pensée, il demeure invisible. Cela n'empêche qu'il y soit. Il est derrière les portes, dans l'armoire fermée, sous le lit, dans tous les coins obscurs, dans toutes les ombres. Guy de Maupassant. La dernière page que j'ai écrite vient d'achever de se consumer. J'ai alimenté mon foyer, j'ai tisonné les bûches avec vigueur afin de m'assurer que tout le vélin partirait en cendres. Ai-je réagi à temps? Dans le conduit de cheminée, il me semble avoir entendu l'écho d'un ricanement remonté du sous-sol. J'en ai encore la chair de poule. Je sentais bien, en écrivant, que quelque chose allait de travers. Ma plume crachotait, et s'usant plus vite que de coutume, nécessitait sans cesse d'être retaillée. Cette petite contrariété aidant, je perdais le fil de mon propos, et je mettais des mots. Un geste brusque a produit un pâté fort disgracieux que j'ai passé un moment à gratter. En somme, je n'avais pas la tête à ce que je faisais. Mais j'ai tenu quand même à aller jusqu'au terme de mon feuillet. Et quand je l'ai relu, le cœur a failli me manquer. Le texte que j'avais produit était tout autre que celui que j'avais conçu. Sans réfléchir, j'ai raturé à gros traits ce discours qui avait coulé d'une plume rebelle. Je m'effarais d'y avoir consigné des noms fatals qu'il est vital de ne jamais évoquer. Mais biffer un mot ne suffit pas à en assurer la damnatio memoriae. Les lettres persistent sous le griffonnage comme le remords sous le repentir. Le simple fait de les savoir toujours là, occupant encore leurs lignes de graphie illisible, suffit à rappeler les noms dangereux à l'esprit. En sorte qu'on ne voit plus que le gribouillage au milieu de la grille aérée du texte. C'est comme si l'on avait caché le péril pour mieux le convoquer. Alors j'ai jeté la page au feu. Je l'ai regardée brûler avec un mélange d'effroi et de soulagement. Du tisonnier, je l'ai maintenu dans le cœur ardent des flammes. Et j'ai achevé de déchiqueter les fragments carbonisés, de crainte que quelque inscription grisâtre ne transparaisse encore sur le feuillet noirci. Il me faut redoubler de précautions. Les mesures que j'ai prises pour m'assurer que la cave restait barricadée ne sont pas sans inconvénient. À cette fin, il m'a fallu composer avec le Tchoudalien, une démarche dangereuse, moralement compromettante, qui m'a beaucoup coûté. J'en ai certes tiré quelques avantages. Tout d'abord, l'odieux personnage redoute autant que moi le monstre qui s'agite et gronde dans les tréfonds de la demeure. Il a entrepris les rondes que je n'étais plus capable de mener vers l'entrée du sous-sol. Cependant, le recours à ce service mercenaire n'est qu'un pis-aller. J'ai troqué une menace contre une autre, car le chuchoteur rôde désormais à travers les galeries, les escaliers et les cours d'une grande partie de la maison. Même lorsqu'il demeure invisible, je devine qu'il a franchi tel palier ou tel seuil à des détails sordides, une porte entrebâillée, un crachat sur la majolique, d'aigres relents d'urine. Pour l'heure, je lui ferme toujours l'accès à l'aile où se trouvent mes appartements, mais combien de temps parviendrai-je à me ménager ce havre? Plus d'une fois, j'ai cru entrevoir une ombre occulter en silence le jour qui filtre sous ma porte. Le Tchoudalien s'est-il déjà glissé jusque dans mon corps de bâtiment? Ou est-ce quelqu'un d'autre qui déambule dans ces couloirs? Là n'est que le péril le plus immédiat. même si la peur me glace l'échine quand je crois deviner une présence louche dans le dédale palatial. Non. Le plus gros risque résulte bien sûr du sortilège que j'ai tramé pour m'attacher les services du Tchoudalien. L'enchantement qui lui donne l'impression de commander sa prothèse par la pensée n'est qu'un petit tour d'illusionnisme, presque un truc de battleur. Mais nulle magie n'est à l'abri du délitement ou du désenvoûtement, et il suffit parfois d'un rien pour que l'art devienne malédiction. J'ai bien sûr eu recours à l'oniromancie pour alimenter la dextérité factice du manchot. C'est dans sa frustration et son désir de recouvrer l'usage de sa main que réside le fluide nécessaire au charme. De la sorte, j'ai puisé les prestiges nécessaires dans sa volonté plutôt que dans la mienne. Un expédient fort utile pour ménager mes forces déclinantes. Mais ce faisant, j'ai tissé un lien entre nos esprits. Si ténu soit-il, il nous rattache. Je pourrais d'ailleurs l'utiliser pour tenter de voir par les yeux du scélérat et mieux le surveiller. Je me garde bien de commettre pareille intrusion. Même lorsque je crains qu'il se faufile dans les parages, de crainte de me frotter de trop près à cette âme abjecte. Malheureusement, même si je me garde de sonder cette conscience dénaturée, l'oniromancie nous joue des tours. Il suffit que je somnole sur mon écritoire ou que je laisse mon esprit vaguer un instant entre deux phrases, et ma main, entraînée par sa griffe de métal, se met à tracer les lignes qu'il écrit au même moment dans le secret de son antre. C'est ainsi que j'ai appris qu'il s'était mis à l'ouvrage. Compte-t-il vraiment me transmettre sa confession une fois qu'il l'aura terminée? Rien n'est moins sûr. Ce n'est pas la première fois qu'il pose par écrit le récit de ses turpitudes. Mais je ne crois pas qu'il ait jamais envisagé de les publier jusqu'à ce jour. Peut-être cherche-t-il, comme moi, une échappatoire à travers le texte. Un dérivatif au tourment de l'âme. L'espoir d'apprivoiser l'avenir par la vertu de la rétrospection. Les fragments, pour la plupart fort brefs, qui coulent ainsi de sa plume dans la mienne, gâchent mon travail en cours, suintent le cynisme et l'ignominie, expriment parfois un curieux mélange de lucidité et d'aveuglement. J'écarte systématiquement les feuillets qui se trouvent ainsi contaminés par sa prose, ce qui me demande de pénibles efforts de copie pour restaurer mon manuscrit dans son intégrité première. J'écarte ces feuillets, mais je ne les détruis pas. Je les conserve sous clé, avec d'autres sources qui étayent mon travail. Aujourd'hui, en revanche, le discours qui a proliféré sur ma page émanait d'une tout autre volonté. Son langage n'était ni le léonien ni le tchoudalien, mais un idiome raffiné, doté de son propre syllabaire, dans lequel j'ai composé quelques ouvrages par le passé. Même le nom de cette langue doit rester informulé, de crainte que la glossolalie ne m'affecte à nouveau. Était-ce un tour joué par ma mémoire? L'enfermement a-t-il affaibli mon égo au point de me faire régresser? C'est très probable. Et pourtant, ces explications banales n'ont rien de rassurant. Si je commence à perdre l'esprit, alors mes défenses s'effriteront et celui qui est en bas finira par se frayer une voie vers la liberté. Et pourtant, c'est justement pour conserver toute ma tête que malgré l'angoisse, la solitude et la déréliction, j'ai fini par reprendre la plume. Occuper mon esprit est probablement le meilleur moyen de ne pas l'égarer. Du moins, est-ce ainsi que j'ai raisonné pour raffermir ma volonté? Cette démarche a porté ses fruits quelque temps. Mais celui qui est en bas cherche sans cesse un moyen de m'atteindre. Je sens sa malveillance qui remonte des sous-sols comme l'humidité sourde depuis les fondations, Dans les parties communes, le salpêtre qui gâte les murs dessine des motifs ésotériques et j'entends trottiner de plus en plus de rats le long des galeries. Non content d'étendre son influence dans la demeure, le monstre cadenassé use probablement de ses talents divinatoires pour sonder l'entremonde. Ses filets mantiques auront fini par accrocher l'osmose télesthésique qui associe ma main à la prothèse du Tchoudalien. Il aura profité de la faille pour se faufiler jusqu'à mon écritoire afin de me dicter un message rempli de propositions trompeuses et de menaces implicites. En brûlant le feuillet maléficier, en prenant conscience du péril, j'ai repoussé pour l'instant la suggestion pernicieuse. Mais ce répit n'aura qu'un temps. J'entends confusément le captif qui s'agite et murmure dans les profondeurs. Il n'a pas dit son dernier mot. Il va revenir à la charge. Du reste, il n'est pas le seul pouvoir dont je craigne l'immixtion. J'ai manqué de discernement en parcourant les souvenirs de Mirabilis, et tout particulièrement ceux de ses privautés avec la dame des futaies bleues. Grâce au chat, j'ai ouvert une fenêtre sur le secret d'une âme qu'elle a dissimulée, de façon immémoriale, à la plupart des siens, et plus encore aux êtres de ma condition. Or, Mirabilis n'est pas un confident fiable. Il me voue une amitié aussi sincère qu'inconstante, et rien ne m'assure qu'il ne révélera pas un jour, fût-ce par jeu ou étourderie, mes indiscrétions. En raison de ces vagabondages chronovagues, le matou peut me trahir n'importe quand. En fait, il n'est pas exclu que la dame des futaies bleues ait été avisée de mon indélicatesse avant même que je ne l'ai commise. Comment réagira-t-elle? Voir comment a-t-elle d'ores et déjà réagi? Suis-je déjà sous le coup d'un envoûtement qui expliquerait, peut-être, la confusion dans laquelle j'ai le sentiment de glisser? À moins, bien sûr, qu'elle n'ait négligé ou oublié ma hardiesse. L'immensité de ses talents ne l'empêche pas d'être frivole. Hélas! Je la sais aussi d'une curiosité insatiable et défiante. Pis que tout, elle a su qui j'étais. Elle désapprouvait l'enseignement que me prodiguait mon maître et ne me ménageait jadis que par estime pour lui. Maintenant qu'il n'est plus, je ne disposerai plus d'aucune protection si la dame des futaies bleues vient à réaliser que je suis toujours de ce monde. La précarité de ma situation éclaire d'une certaine façon les risques que courut Anguzel de Quimarc en chargeant le chevalier au pis d'un message pour la dame. Certes, le propos en était obligeant et courtois, mais il est toujours téméraire d'attirer sur soi l'attention de l'enchanteresse, fût-ce de façon gracieuse. Le comte de Quimarc mesurait-il ce qu'il faisait? Croyait-il que la dame des futaies bleues n'était qu'une intrigante lointaine, ou soupçonnait-il l'étendue réelle de ses pouvoirs? Prier le fantasque Ameline de lui présenter ses hommages, c'était prêter le flanc à l'envoûtement, et s'exposer en étant pris au mot à tomber irrémédiablement dans les raies de la licendière. Non qu'elle soit malveillante par tempérament. Sans doute a-t-elle reçu avec plaisir l'hommage de ce comte, qu'elle a probablement confondu avec l'un de ses aïeux. Mais il va de soi qu'elle ne s'est pas laissée prendre au compliment. Quelque flattée fut-elle, car elle est très coquette. Le procédé a dû l'amuser, par sa courtoisie et son audace. Il n'en est pas moins périlleux de divertir la dame des futaies bleues. Elle ne pourra s'empêcher d'entrer dans le jeu et de le filer selon sa fantaisie. Le mulot invite-t-il la genette? Le coq parade-t-il pour la renarde? Le bourdon voltige-t-il autour de l'araignée? L'enchanteresse use de nos existences comme ces écuyères de haut parage qui, s'émerveillant de la robe d'un beau gibier, chercheront à le mettre en laisse pour leur plaisir, à moins qu'elle ne lui donne la chasse pour doubler leur mante de sa livrée. De fait, les futaies bleues sont remplies de cages dorées, aux barreaux éthérés, où se sont fourvoyés des aventuriers imprudents et quelques rapaces de haut vol. Au cœur de ce domaine de fantasmagories et de merveilles, fleurit une roseraie fatale, dont nul ne peut revenir indemne. Il est rare toutefois que la dame des futaies bleues serve ses proies. Elle se contente souvent de prélever ce qui la charme le plus sur l'instant, un cœur, un enfant, un talent, une destinée, et le serre dans la chambre forte de ses forêts. Elle abandonne les âmes spoliées à une existence amoindrie, emplie d'une mélancolie violente et vague, consumée par une aspiration à retrouver le territoire perdu de leurs amours ou de leurs achèvements. Ou, au contraire, elle joue de la séparation et de l'absence pour les dresser à devenir de zélés auxiliaires. Après tout, en fauconnerie, il faut priver les oiseaux de la liberté et de la vue afin d'en faire des chasseurs de haut vol. Tel était l'ensorcellement auquel s'exposait Anguzel de Quimarc. Sans nul doute, il avait conscience de jouer avec le feu. Mais devinait-il la nature exacte du péril? La mort de Devin de Belcastel lui tenait pourtant lieu de mise en garde. Ayant renié une carrière brillante que lui avait dessinée la dame, le romancier avait péri sous le fer d'un autre de ses favoris. Le comte de Quimarc accorda-t-il vraiment crédit au lien que Ferbassac prétendait avoir avec l'enchanteresse? Crut-il à quelque forfanterie de ce barbare rusé mais dépourvu de bonnes manières? Le vieux féodal faisait-il flèche de tout bois pour se dégager de l'emprise du jeune chef ou roman? Ou avait-il juste invoqué un prétexte pour écarter le chevalier au pis sans froisser le lointain royaume des cinq vallées? À la réflexion, j'incline à croire qu'il avait quelque idée de ce qu'il faisait et du risque qu'il prenait. Les remarques qu'il adressa au chevalier de Vaumacel juste avant de l'envoyer à Vers ne témoignaient pas seulement de son sens de l'observation. Elles révélaient à demi-mot qu'il était prêt à s'engager dans des pactes qui n'étaient plus seulement de nature diplomatique ou militaire. Car il avait bien sûr fini par deviner pourquoi Edan de Vaumacel avait recruté les aventureux du bois oiselé au tournoi de Lindinas. Du reste, bien qu'ils fussent chargés de messages pour deux dames différentes, le chevalier aux épines et le chevalier aux pies quittèrent ensemble Neuvidine. Cela ne pouvait que confirmer Anguzel de Quimarc dans ses soupçons. Après tout, Devin de Belcastel et Ferbassac ap Indulf n'étaient peut-être pas les seules personnalités à avoir subi l'affaitage des futaies bleues. Il suffisait d'avoir lu l'œuvre du défunt romancier pour soupçonner l'existence d'un autre champion.